Carrefour.
Quand vous me dites « Carrefour baisse ses prix !»
Eh oui, et de 10% en moyenne parmi vos produits préférés d'hygiène et d'entretien. Comme la boîte de 30 protèges slip larges Carrefour Soft qui passe de 1,36€ à 99 centimes, soit 27% moins cher. Et c'est chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive et sur carrefour.fr.
Carrefour, on a tous droit au meilleur. Prix baissé à compter du 1er avril 2024 par rapport au prix permanent des produits. Détail et liste des produits concernés sur carrefour.fr.
RMC jusqu'à 8h, vos animaux. Laetitia Barlerin, François Sorel.
Il est 7h17 RMC. Le week-end des experts et les animaux. Notez que tout à l'heure, à partir de 8h, on retrouvera Jean-Luc Moreau pour l'automobile et un spécial hydrogène tout à l'heure. Vous savez que les carburants qui fonctionnent à l'hydrogène, il n'y en a pas beaucoup. En tout cas, les véhicules qui fonctionnent à l'hydrogène, il n'y en a pas beaucoup. Mais voilà, il semblerait que ce soit l'une des pistes pour l'avenir. On en parlera tout à l'heure. Une spéciale donc hydrogène, ça sera entre 9h et 10h sur RMC. Mais d'ici là, on poursuit notre rendez-vous animaux. Tout à l'heure, nous aurons avec nous Réa Hutin, la productrice de l'émission 30 millions d'amis. Vous l'avez entendu, hein, cette émission va s'arrêter en juin prochain. Réa Hutin, écoutez,
après
voilà,
40 ans de présence,
nous donnera ses réactions. Et puis vous verrez qu'il y a aussi une fronde sur le web, c'est-à-dire que beaucoup de gens sont là pour défendre cette émission. Une pétition a été signée avec plus de 200 000 participants, c'est ça, je crois, Laetitia.
Oui, c'est énorme. J'ai compté hier.
Alain Beaugrain-Dubourg sera aussi notre invité tout à l'heure à l'occasion d'un livre qui vient de sortir. Et puis tout de suite, Laetitia, on va rebondir sur l'actualité dramatique de ces derniers jours avec cette avalanche aux Deux Alpes, avec 3 décès. On le sait, lorsqu'il y a une avalanche, les chiens d'avalanche sont les premiers arrivés sur le lieu pour essayer, et là c'est vraiment une course contre la montre pour essayer de sauver des vies humaines.
Voilà, et nous sommes justement avec le capitaine Dominique Christofoli qui dirige la formation des maîtres de chiens d'avalanche de la gendarmerie. Et cette formation a lieu demain, pendant toute la semaine, à Montgenèvre, dans les Hautes-Alpes. Capitaine, bonjour, bienvenue.
Bonjour Laetitia.
Bonjour.
Alors après les événements dramatiques dont on vient de parler, c'est vrai que il est bon de rappeler l'importance du travail de ces chiens. La France compte environ 300 chiens de recherche en avalanche. Alors je ne sais pas si je suis vraiment dans les chiffres ou pas, dont une trentaine au sein des pelotons de gendarmerie de haute montagne. Alors d'abord, dites-nous pourquoi les chiens sont si essentiels pour la recherche des personnes ensevelies lors d'avalanches et pourquoi ils surpassent les hommes et même les technologies aujourd'hui.
Alors en fait, les chiens sont d'une efficacité redoutable si on considère ce qu'on appelle, nous, la recherche par sondage, dans le sens où il faut à chaque fois se remémorer que quand on met 20 sauveteurs sur une avalanche, en faisant un sondage qu'on appelle rapide, on couvre un hectare à peu près en 4 heures. Alors qu'avec un chien, on couvre cet hectare-là en moins d'une demi-heure.
Et le temps, c'est important, justement.
Et c'est le temps qui est... la primeur au niveau d'une avalanche. Quand une victime est enfouie sous la neige, on sait que la première demi-heure est déterminante pour avoir des chances de survie.
C'est-à-dire qu'on peut survivre pendant une demi-heure sous la neige ou moins?
Longtemps, on a des cas personnes qui ont survécu beaucoup plus longtemps. C'est pour ça qu'il faut être très positif et qu'il faut surtout pas penser qu'on est systématiquement décédé au bout d'une demi-heure. Mais globalement, les chances de survie sous la neige s'amenuisent considérablement après la première demi-heure.
Alors, j'ai vu des chiens à l'œuvre. C'est incroyable parce que ils explorent vraiment en quelques minutes, mais une surface immense, et trouvent tout de suite la personne. Alors moi, c'était pas dans le cas d'une avalanche, mais dans le cas d'un entraînement. Alors, jusqu'à quelle profondeur peuvent-ils percevoir l'odeur d'une personne?
Alors, on va faire un peu comme une réponse de Normand, ça dépend de la qualité de la neige. Alors, disons qu'il y a des neiges qui sont très conductrices, donc l'odeur humaine sort assez facilement. Il y a des neiges qui sont très compactes et il faudra malheureusement du temps pour que l'odeur sorte. Alors, on a parlé bien entendu du chien et des sondeurs, on n'a pas parlé du moyen technique et électronique que constitue le détecteur de victimes en avalanche.
Oui, oui.
C'est un appareil qui est très efficace. Et j'en profite à votre antenne pour dire que les gens qui pratiqueraient du ski hors piste dans de bonnes conditions doivent impérativement être porteurs d'un DVA, et d'un détecteur de victimes en avalanche, ainsi que d'une pelle et d'une sonde, ce qui leur permet éventuellement de secourir leurs propres camarades s'ils sont témoins d'une avalanche.
Et je pense que ceux qui font du hors-piste et qui sont vraiment qui sont conscients de ça le portent, hein, justement.
Oui, mais on voit, et vous en avez malheureusement par moment dans les médias, on est mis au courant de ce genre de choses. C'est surtout le ski hors-piste, celui qu'on appelle le ski hors-piste, qui paraît pas du hors-piste, c'est-à-dire on est le long des pistes et on sort de la piste parce que c'est pas dangereux, et en fait, ça l'est tout autant.
Juste une petite question, est-ce que le téléphone portable peut vous aider si, par exemple, la personne a un téléphone portable sur elle?
Absolument pas.
Ça sert à rien?
À part s'il y a un vivant, de prévenir les secours, mais sinon, ça sert pas sous la neige, non.
D'accord. Alors, une petite question qui est bête, mais si l'avalanche entraîne un chamois, est-ce que le chien détecte le chamois?
Le chien est dressé exclusivement à rechercher l'homme.
Alors, d'accord.
On travaille le chien par l'amour de l'homme. Donc, en fait, il n'a pas tout à fait la notion de sauver des vies. Lui, il cherche une victime.
Oui, parce que c'est le jeu pour lui. Hein.
Il pense que la victime est porteur de son jouet.
D'accord. Parce que, alors, expliquez-nous justement comment on dresse un chien d'avalanche. Donc, cette histoire de jouet.
En fait, on utilise les qualités naturelles des chiens. En l'occurrence, au niveau de la gendarmerie, nous, on utilise principalement des bergers belges malinois. Ce sont des chiens qui sont extrêmement joueurs. Ce sont des chiens qui dont on fait bien sûr une au niveau du recrutement on est très draconien. Ce sont des chiens qui sont sociables et à partir de là on leur apprend à aller chercher d'abord leur maître, ensuite une personne qu'ils connaissent et puis après une personne inconnue. Et à chaque fois il est récompensé avec une balle ou avec ce qu'on appelle nous un espèce de petit boudin en toile dans lequel il mord. On évite la nourriture parce que pour le coup une avalanche ça peut être souillé par moment et on pourrait avoir des défauts de marquage qui ne correspondraient pas à ce qu'on cherche.
Ah oui.
Et quel est le signal quand le chien arrive et qu'il trouve, il gratte le sol, c'est ça?
C'est ça. En avalanche, on lui apprend à gratter. Ce qu'on ne peut pas faire en décombre, parce que le chien, sinon, s'abîmerait les pattes, donc il aboie. Mais en avalanche, on lui apprend à gratter la neige. On a une chose qui est très importante en recherche en avalanche, ce qu'on appelle, nous, avec le chien, la fixation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il a pris une effluve humaine sous la neige, il doit absolument plus s'en aller tant que son maître n'est pas arrivé.
Si la personne est décédée, est-ce qu'il a un comportement différent?
Non. Non, parce que on parle de personnes décédées qui viennent de décéder. Donc, en fait, au niveau de la perception des effluves de l'odeur, c'est les odeurs qui remontent sont encore des odeurs d'une personne vivante.
D'accord.
Alors pour revenir, oui.
On revient dans un instant, 7h17. Capitaine Dominique Cristofoli, vous restez avec nous. On découvre cette activité passionnante. Hein. Voilà, ces chiens d'avalanche qui sont tout simplement éblouissants. On en parle dans un instant. Et puis bien sûr, si vous voulez poser vos questions ou réagir ce matin sur ce sujet, n'hésitez pas. Le 3216 ou bien animaux@rmc.fr. On est là dans une minute. À tout de suite.
RMC, le week-end des experts, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin.
Il est 7h19, c'est RMC, le week-end des experts et les animaux. Merci d'être là, Laetitia Barlerin à mes côtés. Notez que tout à l'heure, nous aurons comme invité Alain Bougrain-Dubourg, Laetitia. Il sera avec nous au téléphone, on connaît hein, Alain Bougrain-Dubourg, grand défenseur des animaux. Il publie ses mémoires, on en parlera tout à l'heure. Et puis Réa Hutin, la productrice de l'émission 30 millions d'amis, nous rejoindra aussi en toute fin d'émission pour évoquer, vous le savez, l'arrêt qui a été annoncé par France Télévisions de l'émission 30 millions d'amis. Ce sera en juin prochain. Mais d'ici là, on découvre les chiens d'avalanche avec notre invité, capitaine Dominique Cristofoli,
voilà,
qui est avec nous au téléphone.
Qui dirige une formation de maître de chiens d'avalanche de gendarmerie qui a lieu dès demain à Montgenèvre. Capitaine, la formation d'un chien d'avalanche commence à quel âge et combien de temps dure-t-elle?
Alors, au niveau de la gendarmerie, ce sont des chiens qui sont adultes, hein, ils ont au minimum 12 mois.
Oui.
Ces chiens sont sélectionnés par le Centre National d'Instruction Cynophile de la gendarmerie à Gramat. Donc, ils sont d'abord formés à l'école mère des chiens de la gendarmerie qui est à Gramat dans le Lot.
Oui.
Ils subissent 13 semaines de formation dans le cadre du pistage, puisque ces chiens, l'été, sont employés en pistage.
Donc, ça veut dire qu'ils sont multitâches?
Ils ont deux spécialités, l'avalanche et le pistage. Donc l'été, ils recherchent les personnes qui sont égarés, perdus en montagne sans la notion de neige et, ou dans les vallées. Et puis l'hiver, ils sont donc spécialisés dans l'avalanche. Donc, et la spécialisation avalanche, elle dure 15 jours.
En 15 jours, ils apprennent donc vraiment leur métier de chien d'avalanche.
Tout à fait.
Et quand ils travaillent l'hiver, ils travaillent non-stop pendant plusieurs mois. Comment ça se passe?
Alors, les maîtres de chiens en PGHM sont généralement regroupés au minimum par deux, de manière à pouvoir assurer une permanence en faisant un turnover entre les deux maîtres de chiens. Et bien entendu, pendant la période hivernale, les maîtres de chiens sont... Il y a au minimum un maître de chien de permanence tous les jours.
Et sur place, quand il y a une avalanche, ils travaillent pendant combien de temps?
Alors ça dépend bien sûr de la déclivité du terrain, de la nature de la neige, de la surface à prospecter. Et globalement, un chien, c'est à peu près une heure de travail. C'est en gros, c'est une heure de travail. Au bout d'une heure, il faut le mettre au repos.
Et on leur apprend à être hélitreuillés, à vraiment intervenir dans des conditions extrêmes.
À utiliser tous les moyens de secours qui sont disponibles. Donc ça va du scooter des neiges à la dameuse, au télésiège, à l'hélicoptère, bien sûr, pour le plus extrême.
Très bien. Eh bien, merci beaucoup.
Merci beaucoup. Merci pour cette intervention et pour nous avoir fait découvrir ces secouristes de l'extrême qui sont très importants en ce moment, en tout cas avec ces alertes avalanches. Merci beaucoup.
Je vous en prie. Au revoir. Bonne journée.
Merci beaucoup. Il est 7h22, c'est RMC, le week-end des experts, les animaux. Laetitia, rappelons que tout à l'heure Réa Huitin sera avec nous, mais dans l'immédiat, autre star liée aux animaux, c'est Alain Beaugrain-Dubourg qui nous a rejoint et qui est avec nous au téléphone. Bonjour,
bonjour
Alain.
Bonjour Alain.
Bonjour.
Nous sommes ravis de vous retrouver de temps en temps, on a la chance de vous avoir dans cette émission et nous sommes ravis aujourd'hui, d'autant que c'est quand même un grand jour puisque vous publiez vos mémoires.
Voilà, ça s'appelle Il faut continuer de marcher aux éditions La Martinière. Alors avant de parler de votre vie, votre parcours, parlons d'abord de votre actualité. Je sais que hier vous étiez à Lyon avec Paul Watson, avec Yves Pacalet et de nombreuses associations de protection animale pour manifester contre les abattages de loups décidés dans les Alpes. Alors dites-nous pourquoi c'est si important pour vous.
D'abord, on était plusieurs milliers, effectivement. C'est important parce qu'il y a un projet d'arrêté qui viserait à augmenter le quota des loups que l'on pourrait abattre cette année. Or, on constate que la population de loups est en diminution. Il y en avait plus de 300 en 2014, 282 actuellement. Et on constate surtout qu'on attaque un quota, c'est-à-dire qu'on ne cible pas des loups à problème. Évidemment, on a bien conscience des difficultés du pastoralisme et on travaille de concert avec beaucoup de bergers, mais tirer dans le tas, si j'ose dire, sans qu'on s'attache plus particulièrement aux animaux qui posent de vrais problèmes à certains troupeaux, ça n'est pas rationnel. Et par ailleurs, au moment où on vote une loi sur la biodiversité, notamment au Sénat la semaine prochaine, voir que la ministre demande le déclassement d'espèces protégées du loup, ça n'est pas acceptable.
Bah oui, parce que c'est quand même une espèce protégée au niveau européen.
Exactement. Et on assiste à un discours tout à fait remarquable au plus haut niveau. La France doit être exemplaire en matière de biodiversité. Et puis sur le terrain, on voit qu'on veut abattre les bouquetins de Bargie, qu'on tire les loups n'importe comment, que les vautours sont considérés comme des prédateurs, que les ortolans et les pinsons sont braconnés au vu et au su de tous, qu'on autorise, alors que la chasse au gibier d'eau se termine au 31 janvier, à poursuivre tranquillement en indiquant que les chasseurs ne seront pas verbalisés. Enfin, dans quel monde on se trouve là? Il y a un discrédit du personnel politique, faut pas s'étonner après qu'il ne soit pas toujours apprécié. Voilà, la moindre des choses, c'est de respecter le droit.
Donc vous étiez des milliers hier, c'est très bien. Mais que répondez-vous aux opposants qui vous disent il y a la prédation des loups sur les troupeaux?
Mais on est bien conscient évidemment de cette difficulté, mais ce qu'on constate c'est que il y a des bergers qui se protègent très judicieusement, on les accompagne dans la démarche, et puis il y en a d'autres, il faut le dire, qui laissent leurs troupeaux sans protection.
Oui, j'ai vu des vidéos sur Internet où on voyait des troupeaux dans les montagnes sans réelle protection, même de patous ou de bergers.
Voilà, donc il faut pas s'étonner, mais voyez-vous, au-delà de la situation actuelle, c'est pas en tuant ni les lynx, ni les ours, ni les loups qu'on sauvera le pastoralisme français. En vérité, il a souffert depuis que la France a ouvert ses frontières à la production de Nouvelle-Zélande, qui envoie des carcasses maintenant en grand nombre. Et c'est ça la difficulté. Alors le loup devient un peu le bouc émissaire, et puis on lui donne maintenant une allure de bête du Gévaudan, pour un peu, il rentrerait dans les villes et s'attaquerait aux petites filles. Bon, il y a un moment où il faut se calmer. Est-ce qu'on veut cohabiter avec nos grands prédateurs qui avaient disparu ou quasiment il y a une trentaine d'années, qui sont revenus grâce au travail des associations de protection de la nature et à la volonté des politiques, du reste. Mais aujourd'hui, on a l'impression qu'ils sont en trop. On est en train de nous préparer des campings sans fourmis, quoi. Une espèce de nature affectivée où c'est très joli à regarder à la télévision, mais on ne veut pas cohabiter sur le terrain. Alors, encore une fois, on a conscience des difficultés des bergers. On n'est vraiment pas contre eux. Au contraire, on voudrait les accompagner, comme ça se passe avec beaucoup d'entre eux, de façon judicieuse. Mais la guerre au loup, la chasse au loup, non, ça n'est pas acceptable.
Oui, on peut comprendre aussi que certains bergers soient excédés aussi. À
oui, il y a aussi un peu de fantasme aussi autour du loup, hein, faut le dire.
Ah ben oui.
La peur du loup.
C'est la peur du loup, oui, c'est notre culture, c'est l'histoire qui nous accompagne dans cette démarche. Mais effectivement, j'ai bien compris, mais quand vous avez des maladies comme le piétin qui affecte des troupeaux entiers ou beaucoup d'animaux en tout cas, là on ne crie pas au loup, si je veux dire. Enfin, le loup, la ponction effectuée par les loups par rapport à la mortalité des troupeaux est extrêmement réduite. Alors je dis pas qu'on peut s'en satisfaire, bien sûr, et pour certains éleveurs, c'est extrêmement douloureux. Mais pour autant, la manière dont les choses se passent n'est pas rationnelle, et notre job, c'est quand même de préserver les espèces, voilà, en tenant compte des difficultés de chacun.
Alain, vous restez avec nous, on va s'octroyer une petite pause, histoire de boire un petit café, et on revient dans un instant. On va retrouver la météo, les infos sur RMC, il est bientôt 7h30, et puis on vous retrouve pour parler évidemment de cet ouvrage, hein, vos mémoires, il faut continuer de marcher, Paris aux éditions de La Martinière. On a plein de questions à vous poser avec Laetitia Barlerin. D'ailleurs, si vous voulez justement interroger Alain ce matin, n'hésitez pas, vous pouvez vous aussi prendre la parole, vous qui nous écoutez, le 3216 ou bien animaux@rmc.fr. À tout de suite. Laetitia, attention. Il est temps de retrouver une petite question en flash. Est-ce que vous êtes prête?
Oui.
À retrouver la question de Patricia. Vous vous engagez à répondre à la question de Patricia en moins de 2 minutes. Je souhaite installer une mangeoire à oiseaux. Que leur donner à manger?
Oh, très bonne initiative. Vous savez que nos petits oiseaux, nos moineaux, nos mésanges, nos chardonnerets, nos merles, nos grives, enfin tous les oiseaux de nos jardins ont besoin d'un coup de pouce. Surtout en ce moment, vous avez vu, les températures diminuent. Il n'y a plus d'insectes à manger. Il y a encore moins de graines ou de fruits à manger. Les jours sont courts. Et vous savez qu'ils mangent, ils doivent trouver leur poids en nourriture chaque jour.
Leur poids?
Leur poids.
Cela dit, ils font quelques grammes, mais c'est quand même beaucoup.
C'est quand même beaucoup.
Ouais.
Donc, il faut leur donner des aliments riches en lipides, en gras, du gras.
Gras.
Donc, quoi? De la matière.
Des hamburgers, non?
Pas du tout. Pas du foie gras, bien sûr.
Pas du foie gras, ça marche pas?
Non.
D'accord.
De la margarine, du sein doux, c'est pas mal.
Ouais.
Des graines très grasses comme le tournesol, mais aussi du blé, du millet, du maïs, etc. Vous avez des mélanges de graines qui sont vendues, qui sont pas mal. Prenez du bio, s'il vous plaît. Des fruits secs ou frais. Ou alors des boules de graisse. C'est pas mal parce que la boule de graisse, justement, on a la graisse et les graines. Donc ça aussi, c'est bien à donner. Ne leur donnez pas du pain. Alors ça, parce que ça comble l'estomac et c'est pas du tout énergétique. Ne leur donnez pas des graines de lin, c'est toxique. Pas d'aliments salés, pas de cacahuètes salées, par exemple.
Non, ça c'est pas
de lard. Rien de salé.
Mais des cacahuètes non salées, c'est bien.
Oui, mais enfin bon, c'est un peu gros quand même. Hein. Voilà, vaut mieux du tournesol. Et puis de l'eau. Ils ont besoin d'eau aussi, donc vraiment donner leur de l'eau.
Et là, on fait quoi? Une petite coupelle qu'on change, qu'on remplit
exemple,
régulièrement.
Par exemple, ou alors vous savez, un couvercle de poubelle.
D'accord. À l'envers.
À l'envers. Et là aussi, c'est très bien pour eux.
Et on le met à côté de l'endroit où ils mangent.
Voilà, pas trop loin. Alors faites attention aux chats. Donc mettez vraiment la mangeoire hors de portée des chats.
Et oui, bien sûr. Parce qu'elle peut faire un carnage.
Et oui.
RMC jusqu'à 8h, vos animaux. Laetitia Barlerin, François Sorel.
Voilà, 7h35. C'est RMC, le week-end des experts, les animaux. Laetitia Barlerin, notre vétérinaire qui m'accompagne jusqu'à 8h, comme chaque dimanche, vous le savez. C'est un rendez-vous exclusif RMC. Seul RMC vous propose 2 heures dédiées aux animaux tous les dimanches, 6-8. Après, on enchaînera avec l'automobile. Jean-Luc Moreau me rejoindra et on évoquera l'hydrogène. Cela fait 15 ans qu'on nous annonce l'arrivée de la voiture à hydrogène. Il semblerait que l'année 2016 soit la bonne. Avec une station-service qui a ouvert en plein Paris, qui permet justement de recharger sa voiture à l'hydrogène. On évoquera cette technologie, ce carburant tout à l'heure, quels sont ses avantages, ses inconvénients, avec Jean-Luc Moreau, entre autres, et puis bien sûr toutes vos questions auto. Dans quelques minutes, Laetitia, c'est Réa Hutin qui nous rejoindra. La productrice de l'émission 30 millions d'amis n'est pas contente, et on la comprend puisque France Télévisions a annoncé l'arrêt de cette émission en juin prochain. Ça sera dans quelques minutes, mais d'ici là, nous avons toujours avec énormément de plaisir Alain Beaugrain-Dubourg au téléphone.
Voilà, président de la LPO et auteur de ses mémoires. Il faut continuer de marcher aux éditions La Martinière. Alain, alors découvrons maintenant votre parcours, votre vie. Le public vous a connu à la télé, et pourtant, c'est par hasard, d'après ce que vous dites, que vous y êtes rentré. Alors avant cela, rien ne vous prédestinait vraiment à cette vie médiatique, ni à votre engagement pour la nature. Comment est née votre passion pour les animaux ?
Très très jeune, je crois que comme beaucoup d'enfants, j'ai été touché par l'animal. Et puis, c'est devenu un peu une obsession. J'ai eu la chance de grandir dans l'île de Ré. Et sur la plage, je voyais malheureusement déjà des oiseaux englués dans le pétrole, mais je découvrais des crabes, des bouts de squelettes qui m'invitaient à la curiosité, à l'exotisme. Et puis j'ai pu me rapprocher du Muséum d'Histoire Naturelle.
D'ailleurs, vous avez même décidé de créer votre propre muséum.
Voilà, je ramassais tout ce que je trouvais, et puis j'essayais de mettre des petites étiquettes sur les bocaux, sur ces oiseaux que j'essayais d'empailler plus ou moins bien. Et les gens du muséum m'ont vraiment initié, m'ont pris sous leur aile et m'ont notamment appris à découvrir les serpents, les vipères et les couleuvres, ainsi que à aller baguer les oiseaux dans les zones humides. Alors c'était extraordinaire parce qu'à l'origine j'étais un petit Parisien et donc je découvrais cette nature formidable. Et puis depuis l'île de Ré, au-delà de l'horizon, j'imaginais ces pays. Plein de promesses, l'Afrique avec ses lions, l'Arctique avec ses ours blancs, que sais-je encore. Et j'avais vraiment un besoin de curiosité. Alors la scolarité n'a pas été géniale.
Oui, mais vous aviez des serpents dans votre casier. Des serpents vivants.
Vous nous aviez caché ça, là.
Voilà, je récupérais ces animaux. J'étais fasciné par les serpents. Okay. Évidemment, comme tout le monde, j'avais entendu dire que c'était froid, gluant, agressif. Et je tombe sur des animaux qui, d'abord, sont d'une grande beauté. N'ont pas de moyens d'expression. Hein, ils n'ont pas de membres, donc c'est pas un chien remis de la queue pour vous dire qu'il est content. Et même dans le regard, on peut lire chez l'animal énormément de choses. Or, les serpents ont une écaille au-dessus de l'œil et voilà, ils n'ont pas de paupières, ils n'ont pas de mouvement ou quasiment pas. Et donc, il faut faire l'effort d'aller vers eux pour essayer d'établir un contact, y compris avec des animaux venimeux, ce que je tentais de faire. Et bon, j'ai dû être mordu dizaines de fois dans ma vie, ce qui est très peu, parce qu'à un moment, j'ai présenté ces animaux, les serpents et les rapaces, que je considérais être les mal-aimés de la faune. dans des expositions un peu partout. Et j'avais la prétention de croire que si je réussissais à réhabiliter ces animaux dans l'esprit de l'opinion publique, je sauverais l'ensemble de la biodiversité. Bon, il y a encore du boulot à faire, j'ai la tête.
Voilà. Comment vous êtes arrivé à la télévision? Alors, je sais que vous avez rencontré un certain William Lémergie en pension, c'est ça?
Oui, il était avec moi au lycée Eugène Fromentin à La Rochelle. À l'époque, on ne savait pas, je crois, tous les deux, qu'on se retrouverait sur les studios, les plateaux de télé. Non, je suis rentré parce que pendant 7 ans, j'ai donc fait cette exposition grâce à la Fondation de la Vocation, Blanchet et Blanchet, et à Jean Rostand qui m'avait soutenu à l'époque. J'avais 18 ans, enfin bon, j'étais très jeune, et j'allais de ville en ville coller des affiches, et puis ça s'appelait le Pavillon de la Nature, ça invitait les écoles, les familles à venir voir ces animaux mal aimés. Et puis au bout d'un moment, j'ai vécu un paradoxe parce que à la fois je voulais réhabiliter ces animaux et en même temps je les mettais en cage. Et il y a des gens qui venaient de plus en plus nombreux disant « Ah, pauvre bête !» Alors évidemment, ces animaux étaient récupérés parce qu'ils avaient été blessés dans des pièges à peau. À poteaux. C'est l'époque où on clouait les chouettes sur les portes des granges pour conjurer le sort.
Ah ouais.
Donc finalement j'ai été sanctionné par mon propre message. Les gens considéraient que c'était pas bien de mettre les animaux en cage et moi je le vivais finalement assez mal. Et comme il y a eu pas mal de reportages qu'on a fait sur moi. C'était un peu insolite, je vivais sur une péniche avec mes animaux et tout. On m'a proposé de venir présenter ces animaux avec Dorothée à l'époque à TF1, les visiteurs du mercredi. Et puis la direction a considéré qu'on était vraiment nuls tous les deux et qu'il fallait faire tout sauf de la télévision. Voilà.
Et je crois que vos premières prestations, c'était pas génial.
J'avais le trac, j'étais pas dans un univers de confiance. J'étais un petit sauvage en même temps. J'aimais bien parler aux gens, mais je me trouvais beaucoup plus à l'aise dans la nature auprès des animaux. Donc il y avait un grand décalage et il a fallu assez longtemps pour que je commence à prendre confiance et que je puisse faire passer le message de manière plus efficace. Et donc Antenne 2 à l'époque. Patrice Lapon m'a proposé de venir. C'était l'époque où on était toute une équipe avec les frères Bogdanov, avec Laurent Bromel.
Ah oui, c'était la grande époque. La télé vous manque aujourd'hui, Alain ?
La télé me manque absolument pas parce que figurez-vous que moi j'ai fait de la télé un peu par hasard déjà.
Vous avez fait beaucoup d'émissions animalières, hein ?
Ah oui,
Animalia, Terre des Bêtes, Entre Chiens et Loups.
Oui, avec Drucker, oui. J'en ai fait beaucoup, mais en vérité, l'objectif n'était pas d'exhiber mon minois, très sincèrement. Hein. Bon, j'étais content d'être un peu reconnu et tout, mais c'est l'outil de télévision qui me permettait d'assumer ma passion, c'est-à-dire grâce à la télévision, je partais en reportage pour aller voir justement des bergers dont on parlait tout à l'heure, des chercheurs, des protecteurs de la nature, et j'ai élargi le périmètre de la France à l'ensemble de la planète, où j'ai eu la chance de vivre mes rêves. Voilà, de l'Arctique à la Chine, en passant par les forêts tropicales d'Amérique du Sud, que sais-je encore. Donc c'est vraiment l'outil télé qui me plaît.
Vous ne rêviez pas d'une carrière à la télé, comme un animateur
Et c'était facile à l'époque de proposer une émission sur les animaux. Est-ce que les dirigeants des chaînes
considéraient... Il y avait une émission, il y avait Caméra au Point qui s'était arrêtée, et puis il y avait une émission sur TF1, Les Animaux du Monde, de François de Lagrange, et Louis Rolandel. Non, c'était une époque où on a eu beaucoup de chance, parce que aujourd'hui, au bout de 15 jours, si vous ne faites pas le score, vous êtes éjecté. À l'époque, moi j'ai vraiment eu la possibilité de faire un apprentissage. On m'a fait confiance et je suis arrivé au bon moment. Voilà, c'était une chance formidable. En même temps, on pourra en parler avec Réa, que j'aime beaucoup, pour laquelle j'ai beaucoup de respect, mais à la télévision, on n'a pas un fauteuil éternel, on n'est pas à l'Académie française.
C'est sûr.
Moi, chaque jour, ça a duré près de 30 ans, je m'étonnais d'être encore à l'antenne. Enfin, voilà, de pouvoir faire ce que j'aimais. Et je continue à le faire aujourd'hui avec une boîte de production où je fais beaucoup de documentaires, de reportages, etc.
Mmh. Alain, je vous propose de rester avec nous. Vous évoquiez Réa Huitain. Elle va être avec nous dans un instant au téléphone parce qu'on va revenir évidemment sur cette annonce. Hein, l'arrêt donc de l'émission 30 millions d'amis qui est programmée à la fin de la saison, hein, donc en juin prochain. Puis nous aurons aussi Blandine avec nous qui est une téléspectatrice de 30 millions d'amis qui visiblement n'est pas du tout contente de l'arrêt de cette émission. D'ailleurs, si vous voulez réagir, vous pouvez aussi être de l'avis inverse. Hein, vous pouvez dire, écoutez, voilà, hein, ça fait 40 ans que cette émission existe, il faut passer à autre chose.
Comme disait la directrice, 40 ans, ça suffit.
Voilà, alors peut-être pas comme ça, parce que je pense que c'était pas très cavalier, c'est, un peu maladroit. Voilà. Mais,
ceux qui ont 40 ans ou 40 ans de carrière, ça fait drôle, quoi.
Mais c'est vrai qu'il faut aussi parfois imaginer, évoluer, etc. Donc, n'hésitez pas, vous voulez réagir, 3216 ou animaux@rmc.fr. À tout de suite.
RMC, le week-end des experts, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin.
Voilà, 7h46, c'est RMC, le week-end des experts et les animaux. On a encore une bonne dizaine de minutes à passer ensemble sur RMC pour ce rendez-vous animaux. Et puis ensuite, ce sera la météo et les infos de 8h et on changera d'univers avec l'automobile. Laetitia, nous avons avec nous Alain Beaugrain-Dubourg, qu'on ne présente plus. Auteur donc de Mémoire, il faut continuer de marcher, paru aux éditions de La Martinière. Et puis nous avons aussi avec nous ce matin Réa Huitain.
Réa.
Qui est la productrice de l'émission 30 millions d'amis.
Bonjour Réa.
Bonjour Réa.
Bonjour les amis.
Bonjour, bienvenue. Alors vous êtes en très bonne compagnie puisque Alain Beaugrain-Dubourg vous écoute et vous pouvez lui parler d'ailleurs.
Bien sûr, bonjour Alain, vieux complice.
Bonjour. Bonjour Réa. J'ai dit il y a un instant qu'on était installé dans un fauteuil à vie à la télévision, mais évidemment, je fais partie des premiers à soutenir votre démarche et l'émission 30 millions d'amis qui est tout à fait admirable et qui s'inscrit dans la culture française.
Merci Alain, mais vous savez, on n'est pas installé dans un fauteuil, c'est le public qui décide. Alors effectivement, si les sondages sont là, si le public est au rendez-vous, on ne peut pas lui refuser cette demi-heure de tendresse dans des centaines d'heures d'émissions qui sont souvent violentes. Donc c'est vrai que c'est parfois incompréhensible.
Alors...
Et c'est pas c'est vraiment le 30 millions d'amis au-delà d'une émission, c'est aussi un combat qu'on mène.
Bien
donc
sûr.
C'est vrai qu'une émission sensibilise, une fondation agit. Donc sur le service public, je crois qu'il y avait une place pour cette émission.
Alors Réa, vous restez avec nous, Alain aussi, nous avons Blandine qui nous a appelé au 32-16 et qui voulait réagir ce matin. Bonjour Blandine.
Bonjour Blandine.
Bonjour vous deux, je suis aussi drôle.
Alors, bienvenue, alors vous êtes une inconditionnelle de 30 millions d'amis, c'est ça?
Et oui, je pense que c'est vrai que je ne peux plus la suivre depuis qu'elle est le mercredi.
C'était un peu on a l'impression que c'était un peu la volonté, quoi.
Oui, c'est intentionnel, c'est certain, c'est une manière de faire ça doucement. Mais c'est quand même brutal, mais c'est quand même une émission qui est, bon, vous aviez dit en quelques mots, là, tout ce qui a été dit, tout ce que je pense que beaucoup de gens pensent, mais c'est une émission culturelle, c'est une émission, bien sûr, de distraction, mais c'est une émission, d'éducation.
Qui allait au-delà du divertissement pour vous, Blandine,
absolument,
hein, c'est ça.
C'est une émission d'éducation, surtout aujourd'hui, on manque beaucoup de respect. Bon, tout le monde se rend compte qu'on manque de passé, on balaye souvent le passé. Alors, 40 ans, c'est facile à dire. La manière dont elle l'a dit, bien entendu, la directrice était probablement très maladroit. Mais au contraire, on ne balaye pas des émissions qui sont basées sur tant de travail, tant d'informations, de documentation, de réalité. Et on doit au contraire s'appuyer sur ce genre de travail. Et je pense que c'est une émission qui était parfaite à cette heure, à une heure où toute la famille est réunie, bien entendu, puisque bon, j'ai tendance à, bien entendu, défendre beaucoup certaines valeurs, y compris familiales. Et c'était extraordinaire de l'avoir juste à ce moment-là. Bon,
oui, le dimanche. Vous avez signé la pétition,
oui,
Blandine?
Oui. Il n'y a pas longtemps, hein. C'est parce que j'ai entendu ce matin votre... Très tôt matin. Donc j'ai été vite la signer.
Alors, Réa Huitain.
Alors ça, c'est un témoignage parmi tant d'autres, hein. C'est vrai qu'on en a reçu beaucoup, Réa.
Merci, Blandine. Ça me va droit au cœur et ça reflète vraiment tous ces messages que je reçois. On est à 150 000 de la pétition.
Moi, j'ai compté 200 000.
Ben, c'est-à-dire j'ai sur compté, la voilà. diffusion de l'émission.
Voilà. Non, parce que Laetitia compte les animaux aussi qui ont signé, c'est pour ça.
Là, moi, j'ai compté toutes. J'ai compté toutes les pétitions parce qu'il y a la vôtre, bien sûr. Oui. Et puis il y a d'autres pétitions sur chien.fr, sur change.org, oui. Et j'ai compté tout ça. Ça, on arrive dans les 200 000.
Bon, ben merci.
C'est Réa, énorme, c'est énorme.
Réa, juste une petite question. Est-ce que vous pensez que vous pouvez inverser la vapeur et faire changer cette décision de France Télévisions?
Non, parce que je crois que c'est une personne qui est vraiment très têtue, qui a conscience de son pouvoir sur les producteurs. Les langues se délient. On explique que cette brutalité-là, elle existe avec d'autres producteurs. Je me sens donc moins seule. Donc je crois que il n'y aura pas machine arrière sur cette chaîne-là.
Mais que reproche-t-on à l'émission, en fait?
Il s'agit de Dana Astier, hein, qui est donc la nouvelle directrice de la chaîne France Télévisions, qui a été nommée suite à l'arrivée de Delphine Ernot, qui est la présidente de France Télévisions.
Voilà. Oui, d'ailleurs, quand elle est arrivée, je l'ai vue une seule fois dans ma vie. Elle m'a dit, ah, votre émission fait 35 minutes, je vais la monter à 52 minutes parce qu'elle est en forte progression.
Mais vous parlez de qui, là? De Dana Astier ou de Delphine Ernot?
Oui, absolument. C'était ma seule rencontre, c'était ça. D'accord. Nous allons l'amener. Et puis, tout à coup, en cours de route, au milieu de la saison, en avril, elle arrête l'émission, elle le met le matin. Donc, vraiment, c'est une...
Sans raison, elle ne vous a pas donné de raison.
Non, pas de... Et la dernière raison, c'était pour raison économique. Ensuite, effectivement, j'ai essayé par tous les moyens de la joindre, lui proposer de faire incarner l'émission par Delphine Vespizière, pas vous, Laetitia, qui est tout à fait légitime pour présenter cette émission, vraiment. Et on n'a pas cessé de leur apporter des propositions. Ça a été balayé du revers de la main. Donc, vous savez, une émission, ça se fait... on est une équipe, la chaîne nous dit ce qu'elle souhaite avoir, mais là, visiblement, je crois qu'on était trop populaire, on était trop les bottes dans la boue dans les territoires français, et que je crois qu'il y a une volonté, cette volonté de rajeunir, je veux dire, et puis de polisser, de faire quelque chose de plus parisien, etc., plus bobo, comme on dit. Donc c'est vrai que elle a une idée en tête, et je ne sais pas où elle va aller avec cette idée-là.
Mais donc, à votre avis, c'est plié. Il n'y aura plus 30 millions d'amis sur France Télévisions à la rentrée prochaine.
Mais il y a d'autres chaînes de France Télévisions.
Oui, alors parce que...
Devant cette mobilisation, je ne peux pas penser qu'un patron ne prenne pas en considération...
Puis il y a d'autres chaînes...
Il y a d'autres chaînes aussi.
Sans précédent, quand
Et puis il y a d'autres chaînes que vous avez France Télévisions.
Est-ce que vous avez été approché par d'autres chaînes?
Écoutez, moi, ça fait une semaine que, en fait, je me bats. Je suis là au combat pour essayer de défendre l'émission. Et que, comme François le disait, on est là jusqu'en juin. Donc, je n'allais pas commencer à aller frapper aux portes en disant voilà.
Sûr.
Donc, à partir du moment où elle m'a mis à la porte d'une manière très élégante, je me dis que maintenant, je peux effectivement prendre des contacts. Mais évidemment que je ne lâcherai pas 30 millions d'amis parce que cette émission est essentielle. L'image est essentielle dans la sensibilisation des gens. Parce que nous, on poursuit un combat, c'est le combat pour le bien-être des animaux, contre la maltraitance. Donc, effectivement, on va se battre bec et ongles, comme on dit.
Quel est le but de la pétition? C'est, vous avez donc 150 000 pour votre pétition. Est-ce que vous voulez le million? 500 000
Mais vous savez, même s'il y avait un million, je crois que ça ne changera pas l'idée de la directrice sur France 3. Mais non, mais c'était surtout pour montrer cet immense élan en l'espace d'une semaine, de montrer à quel point le public aimait cette émission et que effectivement il y a eu un sondage qui a été diffusé. Il y a 90% de personnes qui estiment que cette émission doit rester sur la chaîne. Et vous savez, sur les réseaux sociaux, et soit dit en passant, c'est pas des vieux sur les réseaux sociaux, c'est que des jeunes qui utilisent ce moyen de consommation de la télévision. Donc, effectivement, du tonton du rap Rimto à Florence Parisot, en passant par des politiques, des académiciens aussi, on arrive à cette espèce de soutien fabuleux et ça c'est bien parce que je crois que même pour la cause animale, ça montre qu'il y a des milliers de personnes en France qui considèrent que c'est une cause valable et que c'est une cause importante comme une aussi importante qu'une autre.
Alain, si vous étiez à la place de Réa, est-ce que vous vous battriez de la même manière et est-ce qu'à votre avis, on peut imaginer que conserver sur une chaîne de télévision cette émission 30 millions d'amis?
Écoutez, j'ai été à la place de Réa.
Oui, Alain, d'ailleurs, vous nous manquez beaucoup.
Il n'y avait pas Internet et les pétitions sur Internet à l'époque.
Ouais. Non, mais moi, je n'ai pas lancé de pétition. Je me suis dit, ben voilà, la vie continue, on verra comment on s'organise. Mais j'ai vécu effectivement quelque chose de douloureux, pas tant pour le quotidien de producteur et la passion qu'on avait à faire cette émission, mais parce qu'il y avait vraiment un message qui allait
disparaître. Voilà, c'est ça qui est important.
Et c'est ça qui est important. Vous voyez, on transforme maintenant, alors on dit, oh, mais vous inquiétez pas, on va faire de l'animalier.
Oui, c'est horrible,
vérité, ça. voilà, en vérité, on achète des documentaires.
À la BBC.
Voilà, à la BBC, un peu partout. On nous explique que l'oiseau-mouche bat 80 fois des ailes à la seconde, tout ça était très bien, mais en revanche, on ne valorise pas toutes les initiatives admirables, alors pour parler de la faune sauvage, qu'on peut trouver dans les parcs nationaux, au muséum d'histoire naturelle, dans les associations, dans les réserves, etc. Et 30 millions d'amis a cette capacité formidable d'aller vraiment sur le terrain, dans l'intimité de ceux qui vivent avec et pour les animaux, et ça n'a rien à voir avec un documentaire.
Bien
donc
sûr.
Quand on voit le nombre d'émissions, de magazines consacrés au sport, par exemple, bah c'est très bien, mais qu'il n'y en ait pas au moins un sur le thème de l'animal domestique et sauvage, c'est tout à fait inacceptable. Enfin, ça relève du service public.
Merci beaucoup.
Je voulais juste dire, c'est cette relation privilégiée qu'on a tous avec nos animaux, c'est ça qui ressort de l'émission, où on aborde tous les faits de société à travers nos compagnons. Donc c'est pas du tout de l'animalier, comme disent certains.
Réa, merci,
merci beaucoup,
pour ce
Réa.
Témoignage ce matin. On vous souhaite un bon courage.
Parce
que c'est vrai qu'il y a les semaines qui s'annoncent vont être
si
un peu
compliquées. Si vous voulez signer la pétition, allez sur le site de 30 millions d'amis. Et je rappelle le livre aussi d'Alain Bougrain-Dubourg. Il faut continuer de marcher aux éditions La Martinière. Merci à vous deux. Merci.
Merci. Et puis à Réa, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 25 chaînes sur la TNT. Alors pourquoi ne pas arriver sur une autre chaîne?
Mais on va vous recevoir prochainement, Réa, je le sens.
Voilà. Et on va essayer de voir un petit peu les perspectives concernant cette émission. Merci beaucoup Réa. Laetitia, on se retrouve bien sûr dimanche prochain, on sera là, hein, 6h-8h.
Oui, bien sûr, et je vous souhaite à tous un très bon dimanche, je vous embrasse. Et la vidéo.
La ah vidéo, oui, notre vidéo
LOLCAT. Oui, il ne faut pas l'oublier.
De ce dimanche.
C'est un peu une vidéo qui fait le buzz. Il s'agit d'un chat qui est borgne, qui a perdu un œil, et qui fait du surf avec sa propriétaire. Et il adore ça.
Voilà, un chat qui fait du surf, c'est... Bon, déjà, il ne faut pas qu'il ait peur de l'eau.
Ben, il a pas du tout peur, et surtout je pense que c'est la complicité avec sa maîtresse qui est vraiment, on le voit dans la vidéo, qui est incroyable.
Une vidéo retrouvée sur la page Facebook de Vos Animaux sur RMC, et dans un instant après la météo et les infos, ce sera Jean-Luc Moreau qui me rejoint pour l'automobile, vous le savez, tous les dimanches 8-10, à tout de suite.